Vous écoutez RTL. RTL,
l'invité des petits matins.
Il est 6h14, bienvenue sur RTL. Ce matin, on a choisi de s'intéresser à un combat au moment où débutent aujourd'hui les états généraux de la bioéthique. 4 mois de débats au programme, avec au menu notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou en couple. Justement, dans ce contexte, une association milite pour que les enfants nés de donneurs anonymes puissent connaître l'identité de leurs géniteurs. Bonjour Audrey Carmalvezen.
Bonjour.
Vous êtes avocate, membre du collectif PMA, comme procréation médicalement anonyme. Soyons clairs, vous ne réclamez pas une levée totale de l'anonymat. Vous souhaitez ouvrir une porte, c'est bien ça, pour les enfants qui veulent connaître leur père. Expliquez-nous.
C'est ça. En fait, on est pour le principe d'anonymat au moment du recours à la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que le couple qui reçoit, par exemple, un don de sperme ne connaît pas le donneur, et inversement, seulement l'enfant à sa majorité, s'il le souhaite et s'il en éprouve le besoin, pourrait connaître l'identité du donneur. C'est un anonymat, en fait, à durée déterminée.
Vous avez peur que ce combat sur une levée donc partielle de l'anonymat passe à la trappe lors de ces états généraux de la bioéthique, qu'il soit complètement absent des débats, des tables rondes?
Oui, parce que jusqu'à présent, donc on connaît un peu le programme des débats qui vont être organisés par les espaces éthiques régionaux, et on ne figure à l'ordre du jour d'aucun d'entre eux. On a essayé d'obtenir des rendez-vous aussi à Matignon. Enfin, on avait des rendez-vous programmés qui ont été déprogrammés, et on nous dit qu'on va être auditionné par le Comité consultatif national d'éthique. On sait que les auditions ont commencé et notre association, pour l'instant, n'a toujours pas reçu d'invitation. Donc, on craint le pire.
Vous-même, comme 70 000 Français, vous avez été conçu par insémination artificielle avec donneur de sperme. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement la difficulté qui est la vôtre de se construire avec comme ça une absence de réponse sur une partie de son identité ?
Oui, alors c'est une question effectivement d'identité. On n'est pas à la recherche d'un père ou on n'est pas en quête affective. On a des parents, on a un père, une mère et un géniteur. Et on souhaite simplement pouvoir connaître tous les éléments de notre histoire, donc simplement pouvoir voir le visage de la personne qui nous a permis de naître, parce que c'est ce qui vient humaniser ce mode de procréation. Mmh.
Votre mari aussi a été conçu par insémination artificielle avec donneur de sperme. Il partage votre combat. Et puis lui, il a mis en lumière aujourd'hui quelque part l'hypocrisie de l'anonymat, parce que après une enquête invraisemblable, il a retrouvé son géniteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette enquête ?
Il a fait un test. Il a fait un test génétique. Chose qu'on ne voulait absolument pas faire parce qu'on voulait se placer dans le cadre de la légalité. Moi, j'ai fait des recours en justice. On a essayé de sensibiliser le législateur à plusieurs reprises. On a été auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a demandé beaucoup de contacts avec des députés. Et puis, comme on reste toujours inaudible, Arthur donc a fait un test génétique et en 12 heures, il a retrouvé son géniteur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, il matchait, c'est-à-dire qu'il avait soit 6,28% d'ADN en commun avec Larry qui vit à Londres. Et en contactant Larry, en obtenant des informations sur la famille de Larry, et ensuite en consultant l'arbre généalogique que Larry avait constitué sur Internet, Arthur a retrouvé la seule personne qui pouvait être, qui pouvait avoir donné ses gamètes dans les années 70 et qui vit à 1h30 de chez nous.
Et vous l'avez contacté, cette personne, ce géniteur ?
Oui, alors on l'a contacté, mais on s'est posé beaucoup de questions, hein, surtout Arthur. On y a réfléchi tous ensemble, parce qu'on voulait surtout pas le troubler dans sa vie. On voulait être sûr que, par exemple, sa femme, qui n'est peut-être pas au courant de son don de gamètes, ne tombe pas sur le courrier par hasard. Donc en fait, on est passé par des voisins. Et on a demandé à ses voisins de lui remettre le plus discrètement possible un courrier sans leur expliquer ce qu'il y avait dedans, mais simplement pour leur dire on fait partie de sa famille, mais c'est une affaire assez délicate. Il faudrait que seul ce monsieur ait ce courrier. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont mis plus d'un mois à lui donner. Donc nous, on pensait qu'il avait déjà reçu le courrier et qu'en fait il répondrait pas favorablement. Et le 25 décembre, coup de théâtre, ce monsieur appelle Arthur au petit matin, et en fait, il venait d'avoir le courrier 2 jours avant.
Et connaître son géniteur, c'est aussi essentiel sur un plan médical. Votre mari, d'ailleurs, par exemple, il doit subir des tests maintenant, c'est bien ça ?
Exactement, parce qu'en fait, ce monsieur, lui, il a informé donc être porteur d'une anomalie génétique, sur des protéines. Et donc, il a... C'est mon mari qui me dit attention, n'en dis pas trop parce qu'il veut pas, qu'on puisse identifier effectivement son génitat. Mais effectivement, il doit se faire dépister. On sait que les enfants de ce monsieur ne sont pas porteurs de cette anomalie, mais comme Arthur pourrait être porteur, il ressemble beaucoup à la mère de ce monsieur. Et c'est une anomalie qui vient de la mère de ce monsieur, donc il doit se faire dépister parce que c'est une anomalie qui prédispose au développement de maladies, et donc on doit également faire dépister nos enfants.
Donc c'est un paramètre également à prendre en compte dans votre combat. Merci beaucoup Audrey Carmalvezen, avocate, membre du collectif Procréation Médicalement Anonyme, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. On vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.